José Moselly, Le wagon d'argent. Plusieurs grands esprits ont affirmé très sérieusement que ce qui les intéressait le plus dans un journal, c'était les annonces. Opinion contestable, après tout, mais qui était et est encore celle de John Strabins. Le célèbre détective cambrioleur a souvent coutume de dire que c'est grâce à la presse qu'il a eu l'idée de ses plus lucratives entreprises. C'est pourquoi il lit toujours jusqu'à la dernière ligne les innombrables journaux auxquels, sous divers noms, il est abonné. Le plus souvent, c'est en pure perte. Mais John Strabins ne s'en dépite pas. Il pense avec raison que si sur 1000 journaux qu'il lit, un seul le met sur la piste d'une bonne affaire, il n'a point perdu son temps. Il lit donc les annonces et sait démêler ce qu'elles contiennent de vrai et de faux. Sa vie aventureuse lui a appris à lire entre les lignes et à ne s'étonner de rien ou de pas grand-chose. Pourtant, lorsqu'il lut les quelques lignes suivantes, insérées dans la rubrique « Offres et demandes de capitaux » du New York Daily News, il ne put s'empêcher de rester rêveur. Oh, l'annonce était brève, mais intéressante, surtout pour lui. La voici. Jeune homme, indignement volé, désire avoir entretien avec John Strabins, où et quand il conviendra à ce dernier, mais le plus tôt possible. Répondre demain, par la voix du journal aux initiales G.E.B. Le premier sentiment de John Strabins fut l'ahurissement. Le deuxième fut la méfiance. Il se carra plus commodément dans le fauteuil au fond duquel il était assis, vida d'un seul trait la tasse de café brûlant posée sur un guéridon proche, et plus lentement relut la bizarre annonce. « Cela est plutôt drôle, murmura-t-il. Voyons un peu. Jeune homme. » Oui, il faut être jeune pour me croire ou être si naïf. Indignement volé. Ah, c'est pour l'être complètement qu'il s'adresse à moi. Il y aurait du mauvais scot là-dessous que cela ne m'étonnerait pas, qu'à demi. Quoique le piège s'annonce comme assez grossier, qui sait? Peut-être aussi qu'après tout, l'annonce est sincère, tout arrive. Et le jeune homme en question veut peut-être me demander de cambrioler ceux qui, il l'affirme, l'ont indignement volé. C'est à voir. En tout cas, cette annonce va sûrement attirer l'attention sur moi, car je ne dois pas être le seul à la lire. Moi, je vais y réfléchir. Le résultat des réflexions de John Strabins fut que le lendemain, le New York Daily News publia l'annonce suivante. John Strabins prie GEB de lui téléphoner aujourd'hui à 3h au numéro 10 13 91. C'était clair et explicite. Certes, le correspondant anonyme du détective cambrioleur ne pouvait manquer d'être satisfait. Quelqu'un qui ne fut pas moins satisfait, ce fut M. James Moles Scott. Le chef de la Sûreté de San Francisco se trouvait justement à New York où il était venu pour prendre livraison d'un nègre convaincu d'un assassinat commis en Californie. Lui aussi avait eu l'annonce du mystérieux GEB. Et le lendemain, la réponse de John Strabins. Il était radieux. Le hasard, ce grand auxiliaire des policiers, le servait à merveille. Certes, John Strabins était habile et astucieux. Il avait maintes fois berné la police, mais, à ce coup, son audace devait le perdre. James Moles Scott s'étant fait apporter par le chasseur de l'hôtel où il était descendu l'annuaire des téléphones de la ville de New York, n'eut pas de peine à identifier le numéro 10 13 91. Il appartenait à un dentiste, M. J.O. Chadburn. Le chef de la Sûreté de San Francisco sauta aussitôt dans une auto et se fit conduire à l'hôtel du chef de la police de New York, à qui il fit part de sa découverte. Le magistrat new-yorkais fut loin de partager la joie de James Moles Scott. « Mais mon cher ami, dit-il, tout ceci m'a bien l'air d'une mystification. Si audacieux qu'il soit, John Strobitz n'est pas assez naïf pour aller ainsi se jeter dans la gueule du loup. Il est vrai qu'il vous en a tant fait voir à Frisco. Mais nous ne sommes pas des hommes de l'Ouest, ici. Oh, Strobitz vous a fait marcher, vous, autres aussi, répliqua Moles Scott piqué. En tout cas, je le connais mieux que vous. C'est pourquoi je suis sûr que ceci n'est pas une mystification et que John Strobbins, sachant combien la police new-yorkaise est indolente, ne se gêne pas pour agir au grand jour. D'abord, qui est-ce Chad Byrne? Le chef de la police de New York haussa les épaules. Il atteignit son téléphone et, en quelques minutes, put renseigner Moles Scott. « Bien, le docteur Chad Byrne, dit-il, habite le numéro 631 de la 33e avenue. C'est un praticien honorable et distingué. Il est très riche et possède tout un bloc à Cincinnati. Cet homme, un ami de Strobitz, allons donc, mon cher, tout ceci n'est qu'une vaste mystification. » John Strobin vous sait à New York, il aura voulu vous faire marcher. On verra bien. En tout cas, je vous prie de faire surveiller demain la maison de Chad Byrne. J'y viendrai moi-même, et Dieu me donne, si je ne m'y arrête pas, John Strobin, quand même il serait déguisé, au point que sa mère ne le reconnaîtrait pas. À votre aise, mon cher Moles Scott. Vous tenez à vous ridiculiser, pour... c'est votre affaire, après tout. Mais je tiens à arrêter John Strobbins, voilà tout. Vous feriez mieux de le tenir, tout court. Enfin, à votre aise, je vais faire mettre 12 détectives à votre disposition, et sous votre propre responsabilité. C'est entendu. Un dernier mot, Monsieur Joe Shadburn est un homme honoré et respecté. « Attention à ne pas commettre de gaffe. »« Je ne suis pas un idiot. »« Je n'ai pas voulu vous dire cela, Moles Scott. »« Et je vous souhaite même que vos espérances se réalisent. »« Ah, vous êtes des hommes d'imagination dans l'Ouest. »« Qui vivra verra, » dit simplement le chef de la sûreté de San Francisco. 2 heures plus tard, habilement grimé, il sonnait à la porte de M. Joe Shadburn. Introduit dans un vaste et luxueux salon, où une vingtaine de personnes affligées de roches de dents plus ou moins violentes étaient installées, James Moles Scott dut patienter pendant près de 3 heures. Enfin, son tour arriva. Et sur l'invitation d'un valet galonné, il pénétra dans une salle aux murs de porcelaine meublée d'un fauteuil articulé aux armatures de nickel. Au milieu de la pièce, le docteur Shadburn se tenait, grave et sérieux. Il s'inclina devant M. Moles Scott et, de la main, lui indiqua le fauteuil en disant « Asseyez-vous, monsieur, je vous prie, je suis à vous. » Une seconde, James Moles Scott hésita. Ben, « Une fois assis, pensa-t-il, je suis à la discrétion de cet homme. S'il me reconnaît, je suis perdu. Il va m'arracher toutes mes dents. » Joe Shadburn, impassible, attendait. Le chef de la police de San Francisco craignit en montrant de la méfiance de se faire deviner, alors il prit place sur le fauteuil articulé. « Voulez-vous me faire voir votre bouche, monsieur ?» fit Shadburn. « J'ai pas mal aux dents, je désirais un simple nettoyage. »« Très bien, ouvrez la bouche. » Moles Scott, un peu pâle, obéit. Chad Byrne, muet, lui brossa dents et gencives. Il eut rapidement terminé et dit « Mais c'est fait, gentleman, c'est $20. » James Moles Scott ne put s'empêcher de faire la grimace, mais il s'exécuta et murmura N'ai-je pas des dents prêtes à s'abîmer? Oh, si, quatre. Il en faudra même arracher une, répondit le dentiste. Oh, si vous le voulez, c'est l'affaire d'un instant. Non, non, je n'ai pas le temps. J'ai trop attendu. Je reviendrai. À votre aise. Si vous le voulez bien, ce sera pour demain. Oh, je ne sais si je pourrai demain, car, fit le dentiste. Oh, je serai très obligé. Je dois partir demain soir en voyage et je désirerais ne pas tarder plus longtemps à faire arracher cette dent. Mais je vais vous débarrasser de suite, alors, ce sera vite fait. Non, 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 je suis en retard. Tenez, je viendrai demain après-midi, vers 3 heures. Ah, impossible, non, non, là je dois sortir. Venez vers 5 heures, c'est tout ce que je peux faire. Déclara Joe Shelburne, péremptoire, en poussant Mollie Scott vers la porte. Le chef de la sûreté de San Francisco n'insista pas. Il était fixé. Décidément, il ne s'était pas trompé. Le dentiste voulait être libre le lendemain pour recevoir John Stubbins. C'était simple. Mais il avait compté sans lui, Mollie Scott. 20 $ pour lui avoir lavé les dents. 20 $! Mais voilà 20 $ qui allait coûter cher à ce charlatan. Sans perdre de temps, James Mollie Scott s'en fut conter le résultat de son enquête au chef de la police new-yorkaise. Monsieur Goldwyn, tel était le nom du haut fonctionnaire, en fut quelque peu ébranlé. Après tout, dit-il, vous avez peut-être raison, mon cher Mollie Scott. Ce Stubbins, oh, son outrecuidance le perdra, c'est sûr. En tout cas, je m'en vais donner les ordres les plus rigoureux. Dès qu'à vous au grenier, la maison de M. Shelburne va être cernée, sans que nul ne s'en doute. D'autant plus qu'il se pourrait fort bien que le dentiste soit innocent et. Oh, je ne le crois pas! Un homme qui m'a extorqué 20 $ pour m'avoir rincé la bouche, grogna Mollie Scott, qui était économe. Mais elle était peut-être sale, mon cher. Enfin, je dis que peut-être John Sobin se présentera simplement en qualité de client chez Shelburne, et sans avoir l'air de rien, lui demandera à téléphoner. James Mollie Scott haussa les épaules. Pensez-vous? Shelburne m'a dit qu'il ne serait pas chez lui demain avant 5 heures. C'est donc qu'il a tout combiné avec ce damné Stubbins. On verra bien, en tout cas, pas un de ceux qui viendront chez le dentiste n'en sortira sans être identifié. Stubbins y est peut-être déjà, s'écria Mollie Scott, comme s'il venait soudain d'être frappé par cette idée. Oh, on ne peut pourtant pas perquisitionner sans mandat chez Shelburne. Oh, à San Francisco, nous. Oui, je sais, mais à New York, on met plus de forme. D'ailleurs, si Stubbins est chez le dentiste, il doit être sur ses gardes. Et s'il n'y est pas, la moindre descente de police dans l'immeuble l'empêchera d'y venir. Objecta, oui, non, sans raison. Oh, on peut toujours faire cerner discrètement la maison. Soupira Mollie Scott. Eh bien, dans 10 minutes, ce sera chose faite, mon cher. Le chef de la police de New York fit mieux encore que de faire surveiller la maison où habitait le dentiste Shelburne. Sur son ordre, une nuée de détectives fut apostée aux alentours et reçut la mission de suivre et de s'assurer de l'identité de tous, hommes ou femmes, sortant à quelque moment que ce fût de la maison du dentiste. C'est que M. Galwin, la réflexion aidant, commençait à partager l'opinion de Mollie Scott, à savoir que John Stubbins était assez audacieux et assez sûr de lui pour travailler au grand jour. Aussi, après avoir ordonné de surveiller la maison du dentiste, s'en fut-il en personne rendre visite à l'attorney général de l'État de New York à qui il fit part de la situation. Il sut si bien parler qu'il convainquit le haut magistrat et reçut de lui un mandat de comparution au nom de Shelburne et un ordre d'arrestation au nom de John Stubbins. Tout joyeux, M. Galwin regagna l'hôtel de la police. L'affaire s'annonçait bien. Quelle gloire pour lui s'il réussissait à appréhender l'insaisissable détective cambrioleur. Oh, il est vrai que James Prescott en revendiquerait sa part, mais Galwin s'en souciait peu. Il avait d'ailleurs une assez pauvre idée du chef de la sûreté de San Francisco. Sa seule crainte maintenant était que James Corbin ne s'échappât. Pour cela, il suffisait que l'immeuble eût une issue secrète. M. Galwin, afin d'écarter cette éventualité, fit cerner le bloc de maison dans lequel était encastrée la demeure du dentiste et, pour plus de sûreté, plaça les policemen dans les égouts environnants. John Strobbins pouvait venir, il était attendu. « Grâce à mes précautions, déclara Galwin à M. Morescott, votre John Strobbins est sûr de son affaire. Avant 8 jours, il portera le complet rayé. Cela lui apprendra à venir à New York. On arrête les criminels ici. »« Oui, mais à condition que nous vous les signalions, » répondit aigrement Jeff Smollett-Scott. « Sans moi, John Strobbins aurait eu beau jeu à donner ses rendez-vous à votre barbe. » Ainsi, les deux policiers, déjà, se disputaient le mérite de la sensationnelle capture de John Strobbins, sans se souvenir qu'il n'est pas bon de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Dans la soirée, un inspecteur vint, heure par heure, renseigner Galwin et Morescott sur l'identité des gens sortant de la maison du dentiste. La plupart étaient tout simplement des clients du praticien. D'autres étaient des locataires ou des amis de ce dernier. Mais aucun vraiment ne pouvait être pris de près ou de loin pour John Strobbins. « À coup sûr, déclara Morescott, notre gibier est déjà dans sa tanière. C'est demain, à partir de 3 heures, que nous devrons redoubler de vigilance, car il sortira certainement affublé d'un déguisement inattendu, mais, oh, je le reconnaîtrai. Fiez-vous à moi, Galwin. Espérons-le. » Le lendemain, à partir de midi, le barroom situé en face de la maison du dentiste Shadburn compta quelques clients de plus. M. Galwin, notamment, James Smollett-Scott et un trio de solides détectives. Jusqu'à 2 heures, il ne sortit que peu de monde de la maison du dentiste. 5 personnes, lesquelles filées aussitôt et amenées au commissariat le plus voisin, sous des prétextes quelconques, durent être relâchés, aucun doute ne pouvant planer sur leur inhonorabilité. À 2h30 exactement, le docteur Chadburn lui-même franchit le seuil de sa maison et d'un pas hésitant s'éloigna du côté de Wall Street. M. Galwin lui-même, laissant Morescott guetter l'entrée ou la sortie de John Strobbins, emboîta le pas au dentiste. Il vit Chadburn entrer dans la banque Ramsay et l'y suivit. Sans se douter de rien, apparemment, le dentiste se fit délivrer un carnet de chèques et une lettre de crédit valable dans le monde entier. « Oh, plus de doute, » pensa Galwin. « Mon homme est en train de préparer l'affaire que John Strobbins mijote. Arrêtons les frais. » À peine Chadburn fut-il hors de la banque, Galwin lui mit la main sur l'épaule. Oh,